Au-delà de la lutte contre ces trois fléaux, le programme de leurs études était très vaste et admirablement conçu pour en faire les instructeurs du peuple qu'ils pouvaient comprendre à merveille, car ils étaient presque tous fils de paysans ou d'ouvriers. Ils recevaient une culture générale sans doute plus large que profonde, mais qui était une grande nouveauté. Et comme ils avaient toujours vu leur père travailler 12 heures par jour dans le champ, dans la barque ou sur l'échafaudage, ils se félicitaient de leur heureux destin parce qu'ils pouvaient sortir le dimanche et qu'ils avaient 3 fois par an des vacances qui les ramenaient à la maison. Alors le père et le grand-père, et parfois même les voisins, qui n'avaient jamais étudié qu'avec leurs mains, venaient leur poser des questions et leur soumettre de petites abstractions dont jamais personne au village n'avait pu trouver la clé. Ils répondaient, les anciens écoutaient gravement en hochant la tête. C'est pourquoi, pendant 3 années, ils dévoraient la science comme une nourriture précieuse dont leurs aïeux avaient été privés. C'est pourquoi, pendant les récréations, monsieur le directeur faisait le tour des salles de classe pour en chasser quelques trop bons élèves et les condamner à jouer au ballon. À la fin de ses études, il fallait affronter le brevet supérieur, dont les résultats prouvaient que la promotion était parvenue à maturité. Alors, par une sorte de déhiscence, la bonne graine était projetée aux 4 coins du département pour y lutter contre l'ignorance, glorifier la République et garder le chapeau sur la tête au passage des processions. Après quelques années d'apostolat laïque dans la neige des hameaux perdus, le jeune instituteur glissait à mi-pente jusqu'au village, où il épousait au passage l'institutrice ou la postière. Puis il traversait plusieurs de ces bourgades, dont les rues sont encore en pente, et chacune de ces haltes était marquée par la naissance de l'enfant. Au 3e ou au 4e, il arrivait dans les sous-préfectures de la plaine, après quoi il faisait enfin son entrée au chef-lieu, dans une peau devenue trop grande, sous la couronne de ses cheveux blancs. Il enseignait alors dans une école à 8 ou 10 classes et dirigeait le cours supérieur, parfois le cours complémentaire. On fêtait un jour solennellement ses palmes académiques. 3 ans plus tard, il prenait sa retraite, c'est-à-dire que le règlement la lui imposait. Alors, souriant de plaisir, il disait « Je vais enfin pouvoir planter mes choux », sur quoi il se couchait et il mourait. Je n'ai connu beaucoup de ces maîtres d'autrefois. Ils avaient une foi totale dans la beauté de leur mission, une confiance radieuse dans l'avenir de la race humaine. Ils méprisaient l'argent et le luxe. Ils refusaient un avancement pour laisser la place à un autre ou pour continuer la tâche commencée dans un village déshérité. Un très vieil ami de mon père, sorti premier de l'école normale, avait dû à cet exploit de débuter dans un quartier de Marseille. Quartier pouilleux, peuplé de misérables, où nul n'osait se hasarder la nuit. Il y resta de ses débuts à sa retraite, 40 ans dans la même classe, 40 ans sur la même chaise. Et comme un soir mon père lui disait « Tu n'as donc jamais eu d'ambition ?»« Oh, mais si, dit-il, j'en ai eu, et je crois que j'ai bien réussi. Pense qu'en 20 ans, mon prédécesseur a vu guillotiner 6 de ses élèves. Moi, en 40 ans, je n'en ai eu que 2 et un gracié de justesse. Ça valait la peine de rester là. » Car le plus remarquable, c'est que ces anticléricaux avaient des âmes de missionnaires. Pour faire échec à monsieur le curé, dont la vertu était supposée feinte, ils vivaient eux-mêmes comme des saints, et leur morale était aussi inflexible que celle des premiers puritains. Monsieur l'inspecteur d'académie était leur évêque, monsieur le recteur, l'archevêque, et leur pape, c'était monsieur le ministre. On ne lui écrit que sur grand papier avec des formules rituelles. « Comme les prêtres, disait mon père, nous travaillons pour la vie future, mais nous, c'est pour celle des autres. »